Michel Gandilon, merci d'être avec nous ce matin.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Vous êtes l'auteur du livre que je viens de citer, expert associé auprès du département sécurité et défense du Conservatoire national des arts et métiers, un expert du trafic de drogue, si je puis résumer les choses comme cela. Dans ce livre, Drugstore, vous brossez un tableau assez effrayant de la situation. Je voudrais d'abord votre point de vue, avant qu'on approfondisse le sujet, votre point de vue sur les opérations Place Nette des derniers jours, à Marseille notamment, mais pas qu'à Marseille. En quoi sont-elles utiles ?
C'est difficile à dire parce qu'on manque encore un peu de recul pour mesurer l'impact réel de ces opérations. Donc il faudra du temps pour apprécier ça, suivre. On a arrêté des centaines de personnes au cours de ces opérations. Il faudra voir comment elles sont traitées judiciairement, les condamnations en prison. On ne sait pas trop qui a été arrêté, si c'est des hautes figures du trafic ou des petites mains. Donc c'est très difficile de se prononcer. En tout cas, pour mesurer en tout cas l'impact de cette politique, donc comme je l'ai dit, il faudra du temps et voir l'impact réel en termes de marché, sur le marché des drogues, qui peut se mesurer d'ailleurs de manière assez simple. On va voir si les prix vont augmenter, si les puretés vont diminuer. Enfin voilà, c'est à partir de tels critères qu'on pourra apprécier dans quelques mois l'impact de ces opérations.
Alors justement, vous allez nous dire ce que c'est qu'une politique anti-drogue qui a des résultats. Vous évoquiez, on va voir les suites judiciaires. C'est très important. Dans le livre, vous dites, il y a un maillon faible dans la politique anti-drogue. Il n'y en a pas qu'un d'ailleurs. Mais il y a des faiblesses judiciaires dans le suivi judiciaire, dans la chaîne judiciaire.
Absolument, ça s'inscrit dans le cadre d'une crise de la justice en France. Depuis des années, manque de magistrats, et notamment de magistrats spécialisés dans les questions liées au crime organisé. Il y a un système qui est en voie d'embolie, en fait, en voie de saturation. Donc des affaires qui relèvent des cours d'assises, théoriquement, et de la criminalité organisée sont traitées en correctionnel. Donc la réponse pénale est clairement insuffisante en France.
On évoquait les politiques anti-drogue au-delà des opérations Place Nette XXL qui attendent des suites. Qu'est-ce que c'est qu'une politique anti-drogue qui a des résultats ? À quoi on voit que finalement la drogue recule, le trafic recule ?
Aux saisies déjà, les saisies de drogue. Alors là, de ce point de vue-là, effectivement, en France, on assiste à une explosion, notamment des saisies de cannabis, bien sûr, mais surtout de cocaïne, qui n'ont jamais été aussi importantes. Mais c'est insuffisant, parce que là où on mesure le relatif échec de la politique anti-drogue en France, c'est que les prix qui devraient fortement augmenter, du fait des saisies et de la pénurie de produits sur le marché, en fait, ne cessent de diminuer ou stagnent. Le prix de la cocaïne, par exemple, a largement diminué en une vingtaine d'années. Les produits qui circulent n'ont jamais été aussi purs. Donc c'est là qu'on mesure vraiment l'échec de la politique française en anti-drogue.
Ça suit finalement l'évolution de la mondialisation, parce qu'on pourrait comparer les drogues que vous venez de citer à d'autres produits tout à fait légaux. Les prix baissent, la qualité ne baisse pas, elle a tendance à augmenter, et l'accessibilité s'est élargie.
Oui, absolument. Alors le marché des drogues aujourd'hui est un marché mondial, c'est-à-dire que la résine de cannabis qu'on consomme en France est produite au Maroc, la cocaïne est produite en Amérique latine. Et effectivement, cette dernière drogue est symbolique de la mondialisation, c'est-à-dire qu'elle arrive par porte-container. À 75%, le commerce de la cocaïne passe par les voies du trafic maritime et notamment par les portes-containers. C'est pour ça que les ports, les grands ports de l'Europe, que sont Anvers, Hambourg, Rotterdam et de plus en plus Le Havre, où se développent d'ailleurs des phénomènes de corruption, on en parlera peut-être, submergent aujourd'hui l'Europe, pas que la France.
Et des voies classiques.
Et c'est les voies du commerce mondial.
Pas
c'est
des mules, voies... pas des passages.
Alors, il y a
de
des mules aussi.
Il y a des mules, évidemment,
mais filières...
enfin, quand ça arrive par container, ça arrive en même temps qu'un téléviseur.
Oui, ça arrive par centaines, par tonne. Je crois que l'année dernière, dans le port d'Anvers, on a saisi 110 tonnes de cocaïne, ce qui est absolument gigantesque, une multiplication par 20 en l'espace d'une dizaine d'années.
Si je vous demande l'économie de la drogue en milliards de dollars ou d'euros, ce que ça représente dans le monde, vous allez me donner un chiffre astronomique.
Alors, en 2017, il y a une évaluation sérieuse, parce qu'il y a des chiffres qui circulent. Bon, et puis par définition, c'est une économie clandestine, donc c'est très difficile de la chiffrer, mais c'était entre 400 et 600 milliards de dollars.
Alors, pour se mettre à la hauteur d'un ménage ou des gens qui nous écoutent, parce que, évidemment, les milliards, ça leur échappe, un point de deal, ça rapporte combien par jour aujourd'hui ? Un bon point de deal à Marseille, sachant qu'à Marseille, il y en a plus de 150.
On dit, oui, alors il y en aurait 100, ça a un peu diminué, 120, 130 points. point de deal à Marseille. Un bon point de deal, ça peut rapporter jusqu'à 80 000 euros par jour. Donc c'est considérable. 50 000, 60 000. Donc vous imaginez les sommes à blanchir chaque jour, puisque ça, c'est du liquide.
Ça irrigue combien de clients ? Par jour.
Des centaines de clients. On parle de supermarché de la drogue. Donc, vous faites un calcul rapide. 120 points de deal multipliés par 50 000 euros par jour. Vous voyez la quantité d'argent à blanchir. Donc là, ça pose l'irrigation du tissu économique. Puisque cet argent, il faut le faire disparaître. Il faut le blanchir. Et il faut le mettre sur les comptes des trafiquants. Donc là aussi, c'est un aspect de la globalisation, c'est la circulation du capital dans les paradis fiscaux, les places offshore, etc.
On peut voir l'argent de la drogue blanchi sous nos yeux quand on se balade dans une ville ou dans Paris. Il y a des commerces, il y a des activités dont on se dit qu'elles sont financées par la drogue.
Bien sûr, on voit les bars à chicha. Mais bon, il y a des systèmes beaucoup plus discrets. Par exemple, on sait qu'il y a des industries, notamment le bâtiment, qui embauche des clandestins et qui a besoin de les rémunérer en utilisant de l'argent liquide. Et là, il y a beaucoup d'affaires de blanchiment liées au travail clandestin, notamment dans la région de Marseille. Il y a une grosse entreprise qui a été impliquée, qui payait ses clandestins avec l'argent de les liquidités issues des points de deal.
Drugstore, drogue illicite et trafic en France, signé Michel Gandilan, expert de ces questions. Ce qui est absolument déprimant dans votre livre, c'est de voir la porosité entre une société, prenons la société française, on n'est pas au Mexique, et le trafic de drogue, il n'y a plus de barrières étanches. Vous citez la corruption de certains élus, vous citez des complaisances dans les grands ports, vous citez une espèce d'interpénétration économique entre le légal et l'illégal. Quelles barrières sont tombées ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, bon, les accointances, si vous voulez, entre le crime organisé et des parties de la classe politique ou du tissu économique, c'est pas vraiment une nouveauté, puisque notamment Marseille était un peu emblématique de la situation il y a déjà longtemps. Mais on peut dire que ça s'est répandu à mesure que le marché des drogues progressait dans la société française. Il a beaucoup progressé ces 30 dernières années. Ça a été un peu les 30 glorieuses du marché des drogues, puisque les consommations de cannabis ont triplé dans la société française, ont quintuplé pour la cocaïne. Ça engendre à peu près 4, 5, 6 milliards d'euros par an. Et encore, c'est des estimations de 2017, ça a dû beaucoup augmenter. Donc effectivement, la capacité de corruption et d'influence des réseaux trafiquants a finalement augmenté.
Pour faire de la micropolitique, il y avait un bouquin qui s'appelait « Les territoires perdus de la République ». Là, c'est un peu les territoires junkies de la République. Montrez-nous, citez-nous un exemple de cette façon dont certains élus se laissent tenter de recruter dans des municipalités, ou même de mettre sur des listes, ou même eux-mêmes de se laisser corrompre par la drogue.
Alors, il y a eu des affaires de corruption depuis déjà des années. À Corbeil-Essonne, tous les partis politiques sont impliqués. Il y a notamment des affaires à Aubervilliers, à Bagnolet, à Saint-Denis, notamment des scandales à Marseille aussi, où effectivement la montée en puissance des trafiquants, leur capacité de contrôle territorial, oblige d'une certaine manière les maires à négocier, comme ils négocient d'ailleurs avec ce qu'on appelle le frérot-salafisme. Et puis, alors, il y a des phénomènes de corruption plus actives. On l'a vu récemment, y compris dans des villes moyennes ou des petites villes de province, comme on l'a vu à Canteleu, au nord de Rouen, ou l'affaire d'Avallon récemment. Donc, c'est le spectre de la corruption est vraiment menaçant en France aujourd'hui.
Et ces affaires disent qu'à force de contrôler des quartiers entiers, les dealers ou ceux qui sont proches des dealers peuvent amener des clientèles électorales à des élus en mal de voix.
Oui, alors là, il y a eu des affaires, notamment, je pense, à l'affaire de 2007, Sylvie Andrieux, qui était vice-présidente du Conseil régional, qui finançait des associations où derrière, il y avait effectivement des figures du trafic. Et leur mission, c'était de servir de rabatteur de voix pour les élus. C'est ce qu'on appelle la politique des grands frères, où effectivement on repère des figures entre guillemets charismatiques qui ont des possibilités d'influence, qui influencent ces quartiers, et en échange on prend des voix. Mais on peut aussi recruter des voyous comme garde du corps, Bon, c'est une vieille tradition, mais tout ça s'est beaucoup développé à mesure de l'explosion du marché des drogues en France depuis 20 ans.
Explosion liée à la mondialisation, on ne va pas comparer la France au Mexique, mais vous dites qu'il y a des fragilités en France qui sont les fragilités qui ont amené le Mexique, ou par exemple le Maroc, qui est un producteur de cannabis. Eh bien, il y a des fragilités qui peuvent amener le système à s'effondrer, le système de résistance au trafic de drogue.
Oui, absolument. Alors, on le voit de manière caricaturale, l'actualité internationale en fournit des preuves tous les jours. Regardez l'Équateur, le basculement d'un pays comme l'Équateur en quelques années, qui, il y a quelques années, avait des taux d'homicide qui étaient proches de ceux des États-Unis, qui sont déjà élevés, et là où la puissance des cartels de la drogue est en train de détruire quasiment l'État. D'ailleurs, le président Noboa est obligé de remilitariser la lutte contre le trafic de drogue. Donc on n'est pas à l'abri de ce genre de phénomène. On en est encore très loin en France, mais des policiers marseillais ont parlé de mexicanisation. Ils veulent pas dire, bien sûr, que la situation est comparable à celle du Mexique, mais qu'on est dans une voie, dans un processus qui est plutôt inquiétant. Donc il faudrait...
Il faut en prendre la mesure. Chose, il y a un constat dans votre livre, c'est que vous dites partout où l'état de droit est déstabilisé, partout où le droit du plus fort triomphe, et on est en pleine période de déstabilisation de la démocratie et de l'état de droit, vous dites le trafic de drogue est amené à triompher.
Alors le trafic de drogue est amené à triompher, ça je ne sais pas, mais ce qu'on constate effectivement dans des pays comme le Mexique, comme la Colombie, le Venezuela, que les trafiquants ont des capacités de corruption, de pénétration de l'État. Par exemple, un exemple au Mexique, c'est que le chef de la lutte antidrogue, le tsar de la lutte antidrogue, a été jugé aux États-Unis, extradé pour complicité avec le cartel de Sinaloa. Alors je le répète, on n'en est pas là encore en France, mais si ça se développe encore pendant 10, 15 ans, 20 ans, avec ce scandale aussi démocratique de populations entières, des centaines de milliers de Français aujourd'hui qui vivent sous la coupe de trafiquants dans des quartiers où l'État n'a plus le monopole de la violence légitime. Donc ça, c'est un phénomène très inquiétant.
Michel Gandilon, son livre est paru aux éditions du Cerf. Il vient de paraître, ça s'appelle Drugstore, drogue illicite et trafic en France. Merci d'être venu parler ce matin sur Radio Classique. À suivre, le rappel des titres à la revue de presse d'Hervé Gattegno et nos esprits libres aujourd'hui, Routel Krief et Marc Lambron, Radio Classique 8h.